En ce temps-là, les 11 disciples s'en allèrent en Galilée, à la montagne où Jésus leur avait ordonné de se rendre. Quand ils le virent, ils se prosternèrent, mais certains eurent des doutes. Jésus s'approcha d'eux et leur adressa ces paroles: Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. Allez, de toutes les nations faites des disciples. Baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Apprenez-leur à observer tout ce que je vous ai commandé. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Acclamons la parole de Dieu. Les textes entendus hier pour nous introduire à la fête de ce jour soulignaient déjà le lien essentiel qui lie l'ascension à la résurrection et aux mystères, aux nombreux mystères que nous célébrions durant le Triduum pascal. De Benoît XVI à l'une de nos sœurs, des Actes aux Évangiles, la prière également d'ouverture de la célébration, tous ces textes, toutes ces prières liaient ces deux événements, l'ascension et la résurrection, dans un lien un peu indéfectible, un peu comme un diptyque, deux panneaux. Et j'aimerais les compléter ce matin par un troisième, pour ne pas voir seulement l'ascension comme un au revoir, un adieu du Christ, comme un départ ou un éloignement, mais bien comme une ouverture qui nous place au cœur et au centre du mystère de la croix. Aujourd'hui, comme je vous le disais en introduction, c'est le corps qui entre au ciel. Ce n'est pas tellement Dieu qui s'en va. Et ce triptyque que je vais peindre, bon, que je vais esquisser parce que je n'ai pas apporté ni mes pinceaux ni mes couleurs, ce triptyque nous mène de l'incarnation à l'incorporation, en quelque sorte. Je vais développer. Un panneau central pour ce triptyque, un panneau central assez grand, bien large même, assez imposant, c'est celui, oui, du Triduum, par la croix, de la scène à la résurrection. Un grand panneau riche, assez compliqué à dessiner, riche en contrastes et en couleurs. La joie et la peine y cohabitent, l'enfer et le ciel. On a d'une certaine manière l'ombre et la lumière, le repas festif de la Pâque, la scène, la croix, la descente au séjour des morts, le tombeau ouvert au petit matin de Pâques. Voilà pour le grand panneau central. Et puis de part et d'autre, deux volets. Deux panneaux. La transfiguration, au nord, du côté gauche, la transfiguration, et puis du côté droit, l'ascension, le mystère de ce jour, au sud. Deux panneaux. Deux panneaux qu'on n'associe pas toujours et qui figurent d'une certaine manière deux grands mystères du corps, qui concernent le corps du Christ, fait homme, mais qui concernent aussi nos corps à nous. Alors ces deux panneaux, ils ne viennent pas là par hasard, ils sont liés liturgiquement, j'allais dire. Le premier panneau, entourant le Triduum, le premier panneau, celui de la Transfiguration, on l'ouvrirait, j'ai bien compté, 36 jours avant Pâques. Le deuxième dimanche du carême, quand on lit l'évangile de la Transfiguration, c'est à ce moment-là qu'on ouvrirait ce panneau, le panneau de la Transfiguration. Et puis un autre panneau, lui, qu'on ouvrirait 40 jours après Pâques, le panneau de l'Ascension. Et 36 jours avant Pâques, la Transfiguration, 40 jours après Pâques, l'Ascension. Regardons le premier panneau du Nord, celui de la Transfiguration. Premier mystère du corps. Comment un corps peut-il briller si intensément? Comment un corps humain peut-il à ce point rayonner de la lumière divine? Et dans cette nuée lumineuse, alors que les ailes de la colombe se couvrent d'argent, son plumage de flammes d'or, alors qu'il neige au mont sombre, eh bien on est dans ce clair-obscur de la transfiguration, difficile à peindre également, clair-obscur qui nous révèle quelque chose déjà pourtant de la lueur des corps. Il y a cette lumière qui entoure le Christ, le corps du Christ qui devient lumineux, qui nous dit que eh bien, le corps humain peut prendre la pleine lumière, peut prendre la pleine lumière, et que chacun de nos corps aussi pourront prendre quelque chose de la pleine lumière. Il nous révèle peut-être encore plus mystérieusement que, eh bien, ce qu'il y a de plus visible chez chacun de nous, nos corps, eh bien, disent peut-être aussi quelque chose de ce qu'il y a de plus spirituel en nous. Disent quelque chose évidemment de notre âme, et que par nos corps, c'est notre âme qui est la plus visible. Vous voyez, on fait bien la différence entre un corps mort, un cadavre, et puis un corps vivant, chacun de nos corps. Et finalement, ce que moi je vois chez chacune de vous, mes sœurs, et ce qu'on voit les uns des autres, c'est peut-être ce qui fait du corps un corps vivant, c'est peut-être l'âme, c'est peut-être ce qu'il y a de plus spirituel en nous qui transparaît. Et je ne suis pas en train de vous parler de la plastique du corps, mais peut-être de ce qui, chez chacun, chacune de nous, eh bien, rend ce corps vivant, rend ce corps aimable, rend ce corps beau, magnifique, brillant, lumineux. Cette âme, en fait, qui est peut-être le plus visible du corps. Cette âme qui est peut-être ce que l'on perçoit en premier chez l'autre, un peu discrètement pourtant, et pourtant bien là. Savoir que quelqu'un qu'on a parfois à peine croisé, ben, on perçoit qu'il y a quelque chose de Dieu qui est là, quelque chose de l'âme qui est pleinement visible. Et comme on sait quand quelqu'un ne travaille plus que la plastique, justement, comme on sait combien finalement l'âme finit par se cacher sous le corps. Donc la transfiguration, bon, une sorte de clair-obscur, vous voyez, dans ce premier panneau, mais qui nous révèle déjà que le corps va pouvoir sans doute nous mener très loin. Une incarnation qui porte quelque chose déjà de Dieu. Et puis un autre volet au sud, celui de l'ascension. Comment au cœur de la divinité peut-il y avoir désormais un corps? Bon, peut-être qu'il ne faudra pas que trop de théologiens viennent reprendre la phrase que je viens de dire. Comment au cœur de la divinité peut-il y avoir un corps? C'est un peu le mystère que nous célébrons aujourd'hui, le corps du Christ qui monte au ciel, rayonnement de la gloire de Dieu, expression parfaite de son être, le Fils, qui porte l'univers par sa parole puissante, après avoir accompli la purification des péchés, s'est assis à la droite de la majesté divine dans les hauteurs des cieux. Alors voilà le thème de ce panneau de gauche. Pour les couleurs, ça va devenir compliqué. Parce qu'on avait le clair-obscur au nord. Pour le sud, il faudrait un plein ciel. Un bleu couleur soleil. Il faudrait peut-être l'intégralité des couleurs, vous savez, du panneau de la résurrection du retable d'Issenheim. Il faudrait, un peu comme Grunewald, nous faire passer du bleu encore un peu froid du tombeau qui s'ouvre au rouge de la chair ressuscitée jusqu'à l'or lumineux du visage ensoleillé du Christ qui finit par se confondre avec le soleil. En gros, un tableau sans une seule couche de blanc, sans une seule touche de blanc, mais où partout la blancheur domine. Et ce qui sera plus périlleux, ce sera aussi le trône qu'il faudra dynamique, qui commence là où commence le ciel, qui s'en va jusqu'où le ciel s'achève. Vous imaginez un peu. Il faudra aussi une grande dextérité au peintre pour exécuter ce panneau, parce qu'on pourrait presque le prendre dans un sens ou l'autre, le retourner, tant dans ce panneau on aurait un mouvement qui va du ciel à la terre et de la terre au ciel. Dextérité, ça devrait aller puisque le Christ s'assoit à la droite du Père et qu'il nous assure d'être à notre droite. Donc pour la dextérité, nous devrions l'avoir. Mais dans ce panneau, surtout, ce qui sera fulgurant, c'est la manière dont notre humanité se trouve vivante au sein même de Dieu. Le corps au sein même de la Trinité, cette icône du Christ au ciel. Et donc, ce mystère de l'Ascension, ce n'est pas la dernière apparition de Dieu dans la chair, mais cette intronisation de la chair auprès de Dieu. Et il n'y avait que la chair du Christ pour faire cela. Aujourd'hui, d'une certaine manière, nous sommes installés au centre même du rôle filial du Christ dans la Trinité. Alors ça renouvelle quelque peu cette idée de la vision béatifique que nous pouvons avoir, voyez. Elle n'est pas dans un seul face-à-face, mais au cœur même de cette présence de Dieu à nous. Ce ciel ne nous éloigne donc pas tellement non plus de nos contemporains, et c'est la question des anges posée, hein. Pourquoi rester à regarder vers le ciel? Il reviendra de la même manière. Oui, le ciel pour nous n'est pas un là-haut, hein. Il est au contraire une manière ouverte à Dieu de vivre notre rapport au monde. Et la terre, elle, ne sera pas un en bas, mais ce serait une manière qui refermerait le triptyque, qui serait une manière de vivre de manière refermée sur soi, dans nos relations aux autres et à nous-mêmes. Aujourd'hui, donc, mes sœurs, l'ascension, comme cet horizon qui s'ouvre, ce changement de perspective qui nous introduit dans le ciel même. Et c'est pas simplement d'aller regarder l'horizon tendu et anxieux, mais au contraire d'accueillir cette nouvelle présence de Dieu. Et donc à l'incarnation, vous voyez, succède l'incorporation, comment nous allons être corps du Christ, corps accueilli au ciel, notre manière d'être au ciel. L'Église, ce corps que nous formons ce matin, ce corps du Christ, eh bien, nous en avons besoin. C'est là aussi que sera infusé dans quelques jours l'Esprit Saint. Alors, on a voyagé, on ne va pas exécuter hein, ce retable, mes sœurs. Je pense que sinon, il faudra que je reste quelques jours de plus. Mais j'étais heureux de constater en fait que ce triptyque, vous l'avez déjà ici et vous l'avez là-haut, avec la magnifique clé qui ferme la voûte de votre église, ou plutôt qui l'ouvre sur le ciel. Ce trône où la chair sacrifiée de l'agneau est exaltée. Ce trône qui vient recouvrir comme un parapluie toute la communauté et qui vous entraîne, peut-être pas comme une fusée, mais vous entraîne vers le ciel, aux captifs, comme vous le chantiez, hein, la vraie liberté. Les bienheureuses que vous êtes, vous qui avez pour maître et serviteur celui qui trône, celui qui ne s'économise pas, qui n'économise pas sa peine, celui qui aime et qui chérit. Il est avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde.